raconter l'histoire de la créativité, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme qui fait des films, mais jamais les mêmes films. Un homme qui prend des risques comme on prend l'ascenseur. Il faut l'imaginer au lendemain d'un grand succès. Pas une seule seconde, il est tenté de la répéter, la recette qui a fonctionné. Même pas en rêve, parce que son rêve à lui, son rêve d'intranquille, c'est de s'offrir le luxe d'écouter chaque fois son envie. Cette petite voix en lui qui lui dit « Tiens, et si on tentait ça ? Et si on le tentait comme ça ?» Son rêve d'intranquille, pour le comprendre, il faut l'imaginer comme une petite île. Une petite île imaginaire, et puis un jour, la décision d'y aller. D'affréter 15 navires et de prendre la mer, pour y accoster peut-être. La décision de monter un film qui ne ressemble en rien au précédent. « Viens, je t'emmène ». Quoi de mieux que cette chanson de France Gall pour constituer l'équipe? Et on connaît la suite. Je l'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. Pourquoi réussit-il à entendre cette petite voix quand tant d'autres, certains romanciers par exemple, que vous êtes en train de lire là maintenant sur la plage de votre été, ne changeraient pour rien au monde un mélange qui gagne? Et si c'était précisément qu'il ne veut pas gagner? Il veut juste gagner son île, et c'est une autre histoire, un autre voyage. Ou alors, il a juste peur de s'ennuyer, il a peur de l'ennui quand les autres ont peur de la vie. Il trouve que ça pue la mort, que ça fouette la défaite, comme le chante Aurel San, que ça fouette la défaite de répéter la recette, même si c'est celle du succès. Alors, il ne répète pas, il se réinvente, il explore d'autres voies, d'autres choix, d'autres lois, il affrète d'autres navires. Peut-être qu'il ne veut pas être, mais devenir. C'est être là où on ne l'attend pas. Est-ce que c'est plus fatigant? Pas vraiment. Ou alors c'est une belle fatigue, une fatigue saine, une fatigue de créateur et d'artisan, une fatigue avec les yeux qui brillent d'une fièvre légère qui se nomme curiosité. Tiens, et si on faisait ça? Et si on le faisait comme ça? C'est pour parler de ça, de créativité, d'intranquillité et de curiosité, que j'ai le plaisir ce matin de recevoir Michel Hazanavicius, le réalisateur de quelques OSS 117, de The Artist, du Redoutable, du Prince Oublié, qui nous a rejoints sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette belle question. Dans quoi trouve-t-on la force de se réinventer?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Michel Hazanavicius, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je viens de me voir sur des navires, les cheveux au vent, habillé un peu comme Christophe Colomb, c'est bien, ouais. C'est, ouais. Je devrais venir plus souvent. Ouais.
Bon, mais c'est-à-dire que la petite île, ça fait toujours du bien, quoi.
Oui, bah c'est une vision très, comment dire, romanesque.
Trop belle.
Disons très stéréotypée. Enfin, c'est une image. Je vis pas du tout comme ça au quotidien, je vous rassure. Enfin, pour répondre à votre question, ça va très bien.
Ouais. En fait, quand je parle de réinvention, vous n'avez jamais répété deux fois la même recette. Ça, c'est quand même un fait. À part peut-être du OSS 117, premier ou deuxième.
Oui, il y a un faisceau de présomption qui laisse penser que...
Du 1 au 2. Mais à part ça, pourquoi comme ça ce désir d'aller toujours au fond voir ailleurs? D'où ça vient? Est-ce que par exemple c'est un choix ou est-ce qu'au fond vous n'avez pas le choix?
Eh ben, j'ai l'impression que c'est un choix, mais peut-être que je m'invente ce choix, mais en fait j'ai toujours fait ça. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait avec un collègue, Dominique Mézeret, on a fait trois films de détournement, ouais, dont un qui a eu un succès. Enfin, les trois d'ailleurs, ils ont eu un succès, etc. Et en fait tout le monde a commencé à nous appeler pour faire du détournement, les chaînes de télé, les émissions, etc. Et en fait j'ai très vite ressenti que j'allais être enfermé là-dedans, le détourneur qui ne sait faire que ça. Donc j'ai pris...
Alors pour expliquer quand même aux auditeurs, donc vous étiez sur Canal+, vous bossiez avec les nuls, vous avez d'abord détourné des images, puis vous avez fait la classe américaine. Alors, pour qu'on comprenne, c'est donc un détournement géant puisqu'on prend des morceaux de films très classiques et on change juste la voix du doubleur et on leur fait dire n'importe quoi.
On change le montage, on fait se confronter des acteurs d'un film avec des acteurs d'un autre film, un acteur se promène d'un film à l'autre, etc. Et on a changé toutes les voix, évidemment, pour dire des conneries.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je vois trop arriver.
Oh, Rosebud!
Alors justement, attention au piège. Vous êtes en train de nous dire que vous avez voulu ne pas être enfermé dans le détournement et je vous renvoie à un son très drôle de détournement.
Ouais.
Alors, c'est le cœur de notre échange en fait. C'est qu'au fond, est-ce qu'on n'est aussi pas enfermé dans le fait de ne pas vouloir être enfermé finalement ?
Non, parce qu'en fait, vraiment, moi, j'ai une chance, j'ai l'impression d'avoir une chance inouïe qui est de celle de, jusqu'à présent, de faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, j'ai fait aucun film contraint ou, enfin, contraint. Je m'entends, mais en tous les cas, sans un désir fort, ou en tous les cas, le désir le plus fort pour tous les films que j'avais la possibilité de faire à un moment donné. Donc, je pense que les films me ressemblent au moment où je les ai faits, à celui que j'étais au moment où je les ai faits. Mais en même temps, par exemple, je travaille aussi de manière lointaine comme ça sur un film muet. Mmh. Bon, il sera évidemment différent, il serait, si je le faisais, évidemment différent du premier. Mais je ne m'interdis pas de faire quelque chose que j'ai déjà fait. Non, en fait, je le vis comme une très grande liberté, quoi. Donc, je me sens pas du tout enfermé.
Il y a une question que ça pose quand même, cette diversité de vos films. Donc voilà, The Artist, donc on rappelle 5 Oscars, prix à Cannes, etc. The Search, pour le coup, on n'est pas dans le détournement là.
0 Oscar, 0 prix à Cannes.
Et peu d'entrées, ouais. On va en parler après. Un énorme bide, pour être clair.
Exactement.
On va voir comment ça vous a nourri. Mais aussi Le Prince oublié, un film plutôt pour les enfants et les grands. Ou votre premier film, Les Amis. Quand on voit cette diversité quand même, donc cette force dans la réinvention, en tout cas artistique, on se demande quand même si elle n'exige pas un socle fixe. C'est-à-dire si on n'a pas besoin d'une base solide pour pouvoir aller voir ailleurs comme ça. Quelle serait-elle chez vous, cette base solide? Parce que je vous dis pourquoi je pose la question. Parce que j'ai entendu votre masterclass que vous avez donné, qu'on voit sur Internet, que vous avez donné à Canal. Mm-hmm. Et vous dites en fait, j'ai quand même des recettes au fond. J'ai quand même toujours une façon de faire qui est à peu près la même. Notamment en contrôlant beaucoup, en dessinant quasiment chaque scène, en étant très présent au montage.
En étant, monteur de mes films également. Ouais. Alors, je dirais pas que c'est une recette, je dirais que c'est une méthode.
Donc,
une méthode de travail et ça correspond à peu près à ce que j'allais vous répondre avant. C'est-à-dire, je pense que le socle, c'est l'amour de mon métier, mais donc je le dis vraiment sans aucune fausse humilité ou je sais pas quoi, mais un truc d'artisan. C'est-à-dire, ce qui me plaît, c'est de fabriquer des films. J'ai pas l'impression d'être investi d'un message qu'il faudrait que je délivre à tout prix au monde parce que sinon ça irait moins bien si je délivrais pas ce message. En revanche, j'aime faire des films et voilà. Après, je pense aussi qu'il y a plein de choses qui vous échappent. Votre manière de penser sur un sujet donné en raconte autant que le sujet lui-même finalement. Enfin, que ce que vous en pensez, c'est la manière dont vous arrivez à dire quelque chose. Donc, c'est vrai que la facture des films, leur rythme, leur manière d'être pensée, montée, filmée, dialoguée, etc., m'intéresse, je dirais, peut-être plus que le message, entre guillemets. Donc, je dirais que le socle, il est là, il est dans la fabrication.
Il est dans la joie de faire, finalement, presque plus grande que la joie de la réception.
Alors, ça dépend, parce que ça dépend de la réception.
Ouais.
Non, mais il y a une grande joie à venir.
Ce qui est marrant avec vous, c'est que quand vous évoquez, les gens n'ont pas vu, évidemment, quand vous évoquez l'énorme bide de The Search, vous avez les yeux qui rient, plein de joie. Je vais vous proposer d'essayer d'interpréter ce parcours avec des énormes succès et puis aussi des gros échecs à travers une distinction que fait Bergson entre justement la joie du créateur et le bonheur de la reconnaissance. Ce que dit Bergson, c'est que, en fait, il n'y a pas plus grande joie que la joie du créateur. Quand on est les mains comme ça, dans la pâte, en train de faire ce qu'on sait faire, en train d'être inspiré, en train de voir que ça prend forme, on est rempli par une joie du créateur qui indique que la vie en nous, finalement, réussit à atteindre son but. On n'a besoin de rien. Rien à foutre des critiques, rien à foutre de l'argent, rien à foutre de la reconnaissance. Mais le problème, c'est que on est humain. Et donc cette joie de créateur, parfois, nous quitte. Alors on est en manque, on est tremblant, et on a besoin de compenser avec le bonheur de la reconnaissance. Est-ce que vous vivez comme ça ce basculement que beaucoup d'artistes vivent entre un moment de plénitude et un moment où on se met à trembler, on a envie qu'on nous dise qu'on nous aime et qu'on a réussi?
Je vais pas jusqu'à trembler, oui, mais après moi j'ai pas cette vision, C'est une vision hyper théorique dans le sens où elle n'est pas inscrite dans un dans le temps. Il y a pas. Nous, en fait, quand on fait des films, il y a des séquences qui se succèdent les unes aux autres. Quand vous écrivez, vous avez ce genre de joie, effectivement, ouais. Parce que c'est compliqué d'écrire un scénario. Vous avez plusieurs personnages qui ont chacun des buts et ils doivent suivre leur but et tout ça doit raconter une histoire, mmh. Créer des situations, créer des scènes cinématographiques, etc. Donc, quand vous résolvez des problèmes, ce que vous passez votre temps à faire, oui, vous avez de la joie. Mais c'est une séquence.
Ouais.
Après, vous êtes sur le plateau, c'est d'autres problèmes, c'est d'autres joies, etc. C'est une autre séquence. Quand arrive la séquence de la sortie, vous n'êtes plus sur la joie d'il y a 6 mois ou 8 mois, forcément.
Ouais.
Donc, c'est la séquence du spectateur. Non, c'est la séquence de la sortie. Et là, tout d'un coup, ça devient important, ce que les gens pensent de votre film. Mais c'est pas moteur. Et surtout, quand vous prenez une décision de film, vous êtes très loin de cette séquence-là. Donc je dirais que les choses, dans mon cas, je les vis de manière un petit peu plus séparée qu'une vision théorique. Donc Bergson, il dit pas mal de conneries.
Quoi. Ouais, c'est un ouais. Pauvre Bergson. Alors venons-en à ce sourire dans vos yeux quand vous avez évoqué The Search. Donc c'est un film très cher que vous avez fait sur la guerre en Tchétchénie, avec notamment votre femme, Bérénice Béjot, et ça a été un four et critique et commercial, et c'est arrivé après... beaucoup de gros succès, enfin d'énormes succès même. Mais je précise quand même que vous aviez commencé aussi par vous planter en quelque sorte sur votre premier film, Les Amis. Alors, est-ce que ça vous a finalement appris quelque chose que le succès ne vous a pas appris ?
Alors, si vous parlez du premier film, oui. Le premier film, j'ai eu beaucoup de chance dans plein de trucs. C'est-à-dire, je vous disais, les films de détournement, ça avait vraiment marché. J'ai fait de la télé, ça a marché. Après, j'ai fait de la pub, j'ai eu un prix à Cannes, ça a très très bien marché, etc. Et j'ai fait mon premier film, paf, ça n'a pas marché. Et donc là, je me suis dit, il faut bosser plus que ça, il faut vraiment bosser, etc. Donc j'ai travaillé le plus que j'ai pu. Mmh. Voilà. Et après, ça a remarché. Je dis pas que c'était à cause ou grâce au travail, etc. Mais j'étais dans une dynamique ou dans une série qui était assez cool, OSS1, OSS2, mmh. The Artist, etc. Et le troisième, c'est vrai que ça a été un peu un coup de batte de baseball en pleine tête. Ça m'a appris. Je sais pas bien ce que ça m'a appris. D'abord, ça m'a appris à faire un peu profil bas, sûrement, mmh. mais rien n'est gagné. J'ai pas une leçon à tirer réellement de cet échec. Je suis plutôt content qu'il soit arrivé, par contre.
Avec le recul, vous êtes plutôt content.
Oui, ouais, parce que ça, justement, je me sens, assez dégagé maintenant. Enfin, je veux dire, on peut critiquer mes films, etc. C'est pas que je m'en fous, mais je suis quand même beaucoup plus détendu que si vous voulez, comme j'ai eu un peu. Le très très bon et ouais. Le très très mauvais, je me dis, bon, maintenant ça va être entre les deux. Ça m'étonnerait que ce soit beaucoup meilleur que...
Parce qu'on peut l'interpréter aussi dans le rapport à la question du détournement que vous évoquiez. Vous avez commencé par le détournement, la classe américaine, etc. Et finalement, c'est quand même resté beaucoup votre patte.
Ouais.
Le film muet est détourné dans The Artist, le film d'espionnage ou le James Bond est détourné dans OSS. Même quand vous faites Godard, le redoutable, vous n'êtes pas dans une sacralisation comme ça au premier degré de la figure de Godard. Par contre, dans The Search, on trouve un premier degré. Mmh. Est-ce que, quelque part, ce premier degré frontal vous réussit pas ? Est-ce qu'on peut le lire comme ça ?
Oh, mais dites pas ça parce que je bosse sur un qui est il ne m'a pas réussi. Ouais. Ça en fait pas une loi universelle ou pour le restant de mes jours. Il m'a pas réussi, mais j'y retourne et puis on verra bien. Comme je vous disais, moi je m'interdis rien. Je vous dis là, je travaille sur un truc sur un film d'animation très premier degré. C'est une hyper belle histoire. Bon, ça me plaît de la faire si vous voulez. Après. Moi, l'expérience de vie de faire The Search, elle est forte. Hein. Elle est très, très forte. C'est un morceau de ma vie. J'ai passé 6 mois en Géorgie, à 3 kilomètres de la Tchétchénie. Et c'était important. J'ai rencontré des gens. J'ai vécu des choses.
Mais c'est une réussite aussi, au fond.
Ou en tous les cas, oui. C'est une réussite, je ne sais pas si c'est une réussite, mais c'est un moment important de ma vie que je ne revendrai pas, quoi. Donc,
est-ce que vous pensez que quand on se réinvente, quand on change de genre, comme ça, quand on va explorer un autre genre, on abandonne celui qu'on était avant ou on le conserve autrement ?
Mais en fait, là encore, je crois que je vois pas les choses comme ça. D'abord, il y a plein de gens, parce que je suis vraiment pas le seul à être comme ça. Hein. C'est-à-dire, il y a plein de gens dans leur manière d'aborder appelons ça la création, enfin, ou la production de choses, quelles qu'elles soient. Eh ben, ils aiment bien aller dans des genres différents, dans des couleurs différentes, explorer, que ce soit en musique, en film, en littérature. Il y a plein de gens. Bertrand Tavernier, qui est décédé il y a pas longtemps, il n'a jamais fait le même film. Il a fait plein de trucs différents et puis on ne lui rappelait pas à chaque fois. Mais il y en a plein.
Il y en a plein, mais vous savez, oui. Après, on pense à Bowie en musique, par exemple. Oui. Il y en a plus encore qui refont la même chose tout le temps.
C'est presque
deux familles d'artistes.
En fait. Non, je sais pas. Peut-être. En tous les cas, je pense qu'il y a une espèce de fantasme qui voudrait qu'un auteur, c'est quelqu'un qui a une obsession et qui est enfermé dans son obsession et qui ne peut pas faire autrement que de parler de cette obsession, etc.
Bon. Toujours réécrire le même livre, tourner la même histoire, tourner autour de son même désir, de sa même obsession. C'est vrai que c'est une figure de l'artiste.
Oui, mais après, on n'est pas obligé d'y correspondre. Et il y a des grands artistes, Picasso. Picasso, il s'est pas mal renouvelé.
Bah exactement. Ouais. Picasso, Bowie et Michel Hazanavicius. On écoute Rita Mitsouko pour fêter ça. C'était Rita Mitsouko, alors c'est quoi ?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Michel Hazanavicius en essayant de démasquer deux types de secrets. Le premier, comment on se réinvente toute sa vie? Est-ce qu'il le faut? Et le deuxième, au fond, quelle est la mécanique exactement de la comédie? Quel est le timing précis qui fait rire? Mais avant cela, je voudrais vous faire réagir à cette chanson de Rita Mitsouko qui dit « Alors c'est quoi? C'est la joie. C'est la joie qui vient. Qu'est-ce qui vous met en joie ?»
Qu'est-ce qui me met en joie? J'imagine plein de... Enfin, je suis d'un naturel assez joyeux. Alors après, on se méfie avec vous parce que la joie, ça doit être un truc hyper précis.
Mais arrêtez de projeter, c'est une question simple. Pas de méfiance.
Ok. ce qui me met en joie, je sais pas, c'est d'être. D'être là, quoi. D'être connecté, quoi, avec les.
Parce que d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi le secret de l'humour, en fait. Par exemple, si on fait une vanne à un dîner et qu'on est un tout petit peu décalé, ça tombe à côté, quoi.
Ouais.
Et on voit ça aussi dans vos films, dans beaucoup de vos films, notamment dans les OSS, mais pas seulement. Il y a un art comme ça du timing. On a l'impression que c'est très très dur, en fait, de faire rire. C'est presque plus dur de faire une bonne comédie qu'un bon drame, non?
Alors ça, je suis pas très d'accord, mais je crois que si vous pensez ça, il vaut mieux pas faire de comédie, il vaut mieux faire un drame. Allez au plus simple pour vous. Je pense que c'est des histoires de disposition d'esprit. Mais par exemple, mon fils il a 13 ans, il veut toujours faire des blagues et tout. Et je lui explique toujours, écoute quand même les autres, quoi. Des fois, c'est pas le moment de faire une blague. Des fois, il vaut mieux vraiment se taire. Tu brilleras pour ça. Donc il y a le timing des autres, est-ce que les autres sont là pour écouter ou ont envie d'une vanne, et il y a le timing de la vanne elle-même, quoi. Donc le timing, je crois que c'est un truc primordial dans la comédie.
Est-ce que vous auriez un exemple concret pour qu'on comprenne, par exemple l'exemple d'une scène où il y a une blague qui marche parce qu'elle arrive à une seconde précise et qui ne marcherait pas si elle était arrivée plus prématurément ou plus tardivement?
Comme ça, d'emblée, je pense à Peter Sellers, qui est une espèce de champion du timing, avec de l'humour très physique parfois. Oui. Et je pense à une scène dans La Panthère Rose, où il rentre dans une pièce, et dans un gymnase, et il y a des barres parallèles, et il commence à caresser les barres parallèles en disant... Oh, on m'appelait le polisseur des barres parallèles. Et puis, il commence à faire deux, trois mouvements. Et au moment de sortir, il y a en fait un trou à côté. Et il disparaît dans l'étage inférieur. Et ça arrive pile au moment... En fait, on attend une blague sur les barres parallèles. Elles ne viennent pas. Il fait un très beau geste de sortie. On se dit, putain, il est quand même bon, le gars. Et effectivement, là, il y a le sol se dérobe sous ses pieds. Et la vanne arrive pile au bon moment, au moment où on était en confiance sur ses capacités à faire des barres parallèles. Je pense que c'est une vanne qui marche essentiellement sur le timing. Ouais.
Vous pensez qu'il faut être très attentif pour être drôle?
Je vais dire oui. Non,
je vous dis pourquoi je pose la question. Parce que dans votre premier détournement, c'est un film donc devenu culte, hein, la classe américaine. Il est jamais sorti au cinéma. On peut le voir qu'en faisant un effort. Il y a ce travail sur les lèvres, en fait. Parce qu'il y a des scènes cultes de films classiques. Et puis, il faut être très attentif aux lèvres pour mettre ensuite d'autres propos dans la bouche de ces acteurs. Et je précise, avec les mêmes doubleurs. C'est ça qui est fort dans votre réussite. Mais du coup, il fallait être extrêmement attentif. Il faut bien regarder, quoi.
C'est beaucoup de... Alors, au cinéma, pour moi, il y a beaucoup de... C'est assez rigoureux. Je dirais pas que c'est laborieux, mais je prends ça hyper au sérieux. À chaque fois qu'il y a une vanne, je la prends vraiment très au sérieux, à l'écriture, au jeu avec les acteurs et au montage. D'ailleurs, on parlait de timing. Moi, j'ai tendance, à chaque fois qu'on tourne, à demander aux acteurs de ralentir à mort, parce qu'on a toujours tendance, quand on n'est pas très en confiance, à accélérer quand on veut raconter quelque chose. Et y a souvent, je trouve, un truc qui manque, c'est le temps de penser. C'est-à-dire quand on voit au cinéma quelqu'un penser quelque chose et, par exemple, dire une grosse connerie derrière, mais qu'il l'a mûrement réfléchi, c'est d'autant plus drôle pour moi que s'il sort juste une vanne, en fait. Donc, il y a toujours une histoire derrière une vanne, en fait. Il y a toujours, quand il y a un deuxième degré, il y a un premier degré. Quand il y a une vanne, il y a quand même quelqu'un qui a pensé derrière. Je parle du personnage.
Ouais.
Et je trouve que quand le premier degré, c'est-à-dire la sincérité du personnage est palpable et qu'il y a une connerie, moi, ça me fait beaucoup plus rire que juste une vanne, entre guillemets, de dialoguiste ou de scénariste.
Mes amis, je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, méfiez-vous du cynisme. Méfiez-vous des solutions hâtives. Bon, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Êtes-vous sûr que les enfants que vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Et c'est à eux que je m'adresse. Et je voudrais leur poser une question. Une simple question. Et si le cinquième Reich était plutôt celui de l'amour? J'espérais faire rêver ces nazis, je n'ai récolté que Rizet et Quolibet.
Excellent, alors on a reconnu Jean Dujardin dans OSS. Donc là, le second degré repose dans le premier.
Bon, il est habillé en Robin des Bois, ouais. Il y a une assemblée de nazis qui l'écoute tendrement. Oui, ouais, je crois. Oui, oui, il y a un premier degré de rêver d'un monde meilleur.
Ouais, et puis même de vouloir plaire aussi, de vouloir que ça marche, parce que d'ailleurs il se plante en plus, il se moque de lui.
Il se plante lamentablement, mais il bon, déjà il aura essayé, c'est pas mal, et puis c'est l'occasion de dire quelques conneries, voilà, comme ça. Non, ouais, enfin, il y a... Bon, après, c'est un passage obligé de... Enfin, un passage obligé, c'est un stéréotype ou une scène stéréotype de... Très Capra, quoi. Frank Capra, ouais. C'est-à-dire le héros délivre un message d'amour au monde et en général, bon, Monsieur Smith va convaincre le Sénat américain que bon, bah lui il rate, mais parce qu'on est dans une comédie. Si ça avait été un drame, si ça avait été un film plus sérieux, il aurait réussi sûrement. C'est d'ailleurs, le Cinquième Reich, à ma connaissance, n'est pas arrivé, je crois.
Toujours pas.
Ouais, il a un peu réussi.
Alors c'est intéressant ce que vous dites sur le temps comme ça, non seulement le timing précis pour faire rire, mais aussi le temps pour entendre la pensée en fait. Et figurez-vous que c'est ce que disait Yankelevitch de l'ironie. Il dit « l'ironie tend la perche à celui qui a l'égard ». C'est-à-dire qu'au fond, elle lui propose en fait de réagir. C'est donc un rire qui fait réfléchir. Est-ce que vous n'aimez que ce rire-là ou vous aimez aussi parfois un rire un peu plus con quoi, juste un humour en fait plus brut qui serait pas de l'ironie destinée à faire réfléchir.
Alors moi j'ai aucune religion sur le rire et surtout j'ai du mal les films qui ont toujours un type de vanne et qu'on j'aime bien qu'il y ait plein de trucs très différents. Par exemple, là, il y a des trucs sur le Troisième Reich, mais deux secondes après, il essaie de tirer avec son faux arc et sa flèche, elle fait 1m50 et il se plaint qu'il a un arc de bébé. Ça fait pas énormément réfléchir. Ou il va se recoiffer le matin et d'un coup de main, il va devenir impeccable. C'est pas des trucs qui font réfléchir, c'est des trucs très paf. Comme
mais
ça,
quand même, derrière les vannes, il y a un truc. Hein. Il y a une vision du monde en général. Derrière un type d'humour, on peut avoir quelque chose de tendre, de bienveillant, quelque chose de méchant, quelque chose de cynique.
Ouais.
Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que non seulement vous mélangez les genres d'un film à l'autre, mais même au sein d'un film drôle, vous mélangez les types d'humour, les différents registres en fait.
Oui, parce que d'abord, je pense que je suis le fruit de ça, c'est-à-dire que j'aime autant Lou Beach que Belmondo, enfin peut-être pas autant, mais différemment, mais aussi autant ou Pierre Richard ou voilà, ou Adam Sandler, des choses des fois très bêtes mais drôles, voilà, à casser les ventres, et puis des trucs très fins où on rigole pas en se tapant sur les cuisses, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est marrant, mais j'ai jamais vu un truc aussi marrant. Quand bien même on rigolerait pas, le rire ne se déclencherait pas. Et donc voilà, après, oui, je pense qu'on s'inscrit quand même tous dans une manière de raconter, je sais pas, l'être humain, le monde, ce que vous voulez, mais de raconter un truc. Moi, c'est vrai que j'ai tendance plutôt... Si on en parle un peu sérieusement, comme on fait là, ce qui est toujours moins drôle que de voir les vannes.
Mais c'est quand même pas mal. Hein.
Mais je crois que j'ai tendance à montrer plutôt l'humanité des gens par leurs failles, par le truc qui déconne, par les faiblesses, par la bêtise. Et en fait, de dire c'est comme ça qu'on est humain tous, quoi. C'est par là qu'on est humain plutôt que de sublimer, justement, un peu à la Capra. sublimer des personnages et de montrer le monde tel que j'aimerais qu'il soit. Je pense qu'on aimerait tous que le monde soit mieux. En gros, il y en a qui décrivent un monde voilà, avec des sentiments beaux, nobles, des personnages nobles, etc. Et moi, j'ai l'impression plutôt de montrer un peu des crétins, un peu, ouais, pas très brillants, mais bon, ils sont humains quand
mais
même.
Mais attendrissants quand même.
Attendrissants, humains, dignes à un endroit, ouais.
Ouais. Il y a quand même aussi une question que peut-être vous vous êtes posée, au regard de votre succès, c'est la question de la responsabilité par rapport à une époque qui est quand même dévorée par l'ironie.
Ah oui.
C'est-à-dire que il y en a trop, on peut plus écouter une émission de débat sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse des blagues, le second degré dévore en fait même l'esprit critique quelque part. Alors nous, on a compris votre position, mais malgré tout, est-ce que parfois vous n'avez pas eu une petite crainte de dire en fait j'en rajoute une couche et je suis un peu responsable finalement de donner comme ça, d'alimenter cette machine à ironie qui nous éloigne les uns et les autres quand même, malgré tout, du premier degré, de l'amour, de la responsabilité, de la morale, de l'amitié, tout ça, quoi.
Si, non, mais c'est une question même... En fait, après le deuxième OSS, d'ailleurs, c'est une question qui a commencé vraiment... En fait, moi, j'ai commencé à travailler à Canal+, à la fin des années 80, et l'ironie n'était pas du tout le discours dominant.
Bien
Au
sûr.
Contraire, c'était une espèce de contre... de contre-discours. Il y avait très peu de chaînes de télé, il y avait pas mille moyens de s'exprimer publiquement, et la société, elle était quand même assez premier degré. Donc l'ironie était comme ça une espèce de percée un peu de liberté, d'un ton un peu nouveau.
Ouais.
Et en fait, c'est devenu le discours dominant. Donc c'est vrai que c'est un peu... Mais d'où le fait d'avoir fait des films très premier degré aussi.
Bien sûr. Ouais.
Et malgré tout, je pense qu'être subversif ou transgressif aujourd'hui, c'est d'être totalement premier degré.
C'est ce que vous avez un projet comme ça en ce moment?
Oui, mais pas pour être transgressif parce que ça me plaît, parce que c'est une très belle histoire, ouais. Voilà.
Finalement, en fait, votre thèse, c'est que qu'il y ait un second degré ou pas, c'est quand même le premier degré qui compte.
Ouais.
C'est ça, en fait.
Ah, complètement.
C'est vraiment, pour le coup, vous disiez, oui, c'est pas intéressant de parler de ce qui est drôle et tout, mais si ça, c'est une thèse intéressante.
Mais c'est-à-dire que tout... Alors, j'ai la chance d'être copain, je vous le dis, ça fait un peu gros crâneur, mais je le dis quand même. J'ai la chance d'être copain avec Mel Brooks,
ouais.
Et c'est son grand truc aussi, c'est « Ok, c'est drôle, c'est quoi l'histoire derrière ?» Il veut toujours... C'est pas juste des blagues drôles, il y en a, mais c'est quoi l'histoire derrière? Donc en gros, ça veut dire c'est quoi le premier degré de ce second degré?
Et puis il y a des choses aussi... je vous interromps, mais c'est parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas accéder directement. Donc peut-être il faut le chemin indirect. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un second degré pour qu'on puisse voir le premier degré. Il ne se voit pas directement.
Oui, encore que, oui, peut-être, mais quand on est dans la position de faire une comédie, on se pose pas la question comme ça, on se pose la question surtout de faire rire. La question, c'est à quel prix vous faites rire. Quelle est l'histoire que je raconte au fond? C'est-à-dire vers quoi le rire, c'est quand on se marre, il y a un peu une ouverture d'un truc qu'on a pas compris, mais pressenti, on se dit, là, il y a un truc il y a un truc là, quoi. Et ça va vite, on rigole, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière?
Ouais, voilà, dans quelle direction, vers quoi on vous a emmené et tout. Et c'est vrai que, OSS, parfois, je pense que je n'assumerais pas tous les gens qui citent des vannes d'OSS dans toutes les circonstances.
Oui, bien sûr.
Il y a des gens, je pense que je rirais volontiers avec eux. Je pense qu'il y a des gros cons qui prennent des vannes d'OSS à leur compte et dans des situations dont j'aurais honte, quoi.
Ouais, c'est belle honnêteté. On va écouter Prince pour fêter ça.
Streets. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every vato from New York to LA. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jack, you might be next if you try to cut mama's cake.
What the deal then?
Ask her what to do.
she said.
C'était évidemment Prince, Born to Die.
France Inter.
En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux. Qu'est-ce qu'un trois bras, un seul chapeau, deux chemises et une veste, un foulard, un pistolet et quatre oreilles?
Mais aucun problème. C'est le cow-boy de Tchernobyl.
Bravo, il le connaissait.
C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus deux, les enfants.
Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Michel Hazanavicius sous le soleil de Platon et nous questionnons la question de la répétition, de la créativité, de la réinvention avec un réalisateur qui s'est beaucoup, beaucoup réinventé. Même s'il essaye de nous convaincre qu'il n'est pas le seul, moi je persiste et signe, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne se renouvellent pas comme ça, ni dans la musique, ni dans la littérature, ni dans le cinéma. Mais alors justement, venons-en un peu plus précisément à cette question de la répétition, notamment à travers le comique de répétition. Il y a un film que vous adorez, comme moi d'ailleurs, Un jour sans fin.
Oui.
C'est l'histoire, voilà, c'est la journée se répète tout le temps et puis on se demande comment on va en sortir. Pourquoi vous l'aimez tant ce film ?
D'abord parce qu'il est brillamment écrit, c'est comédie fantastique. Elles ont toujours des très très bons points de départ et rarement les résolutions sont autant ou aussi satisfaisantes que celle-là.
Ouais.
En plus, je pense qu'on parlait de l'histoire derrière. Je crois que ça raconte quelque chose sur justement comment on peut trouver le bonheur dans le quotidien, dans la répétition, dans des choses qui sont complètement à notre à notre portée quoi finalement. Et ce type, bon alors en plus c'est le rôle absolument parfait pour Bill Murray, c'est-à-dire une espèce de bougon ours un peu asocial comme ça qui est jamais content, qui se satisfait de rien. Justement, tout d'un coup, c'est dans cette espèce de dans son cauchemar qui est la routine. Ben finalement, il va trouver un épanouissement qui l'amène sûrement, espérons, vers, si ce n'est le bonheur, l'amour.
Mais c'est quand même quelqu'un qui est tout le temps dans le second degré au début,
ouais.
Et qui va, finalement en sort à travers l'amour.
Ouais.
Et ça vous touche.
Ouais. Vous voulez que je développe ? Et puis la facture du film. Non, mais c'est vrai, ce que ça raconte, c'est assez original quand même, parce que dans toutes les... Après, il y a un autre film qui ressemble aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amour et Amnésie, avec Drew Barrymore et Adam Sandler. Mmh. Mais c'est vrai que les morales des comédies sont toujours un petit peu les mêmes, quoi. Un peu. Celle-là, elle est un peu. Elle est originale.
Elle est très forte, ouais, ouais. En fait, il faut que ça se répète aussi pour qu'on puisse saisir ce qui ne se répète pas.
Oui, c'est qu'en fait, l'illusion de la répétition ou de la routine. En vrai, si on ouvre bien les yeux ou si on regarde de plus près, c'est jamais la même chose, quoi.
Ouais, en fait, c'est si on est attentif. Toujours pareil. C'est comme pour lire sur les lèvres de quelqu'un et peut-être remplacer les paroles comme vous l'avez fait dans la classe américaine. Il faut être très attentif. D'ailleurs, quand on répète, par exemple, un échec, parfois on le vit hyper mal parce qu'on se dit j'ai encore raté. Mais en fait, si on est attentif. Toujours pareil, on va s'apercevoir qu'on n'a pas répété l'échec à l'identique. C'est d'ailleurs la très belle phrase de Beckett qui dit « Tu as échoué, essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux.
Ouais. »
Et peut-être c'est ça aussi qui est intéressant dans l'humour et dans les schémas de répétition, c'est qu'il y a une délicatesse, il y a une attention et on va s'apercevoir qu'on répète jamais les choses vraiment à l'identique finalement. Je crois que c'est ça que dit Un jour sans fin peut-être.
Puisque finalement, c'est vrai, il progresse. Mais vous savez encore ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a aussi plein de trucs qui vous échappent. En fait, là, vous me parlez tout ça, puis je suis en train de penser à un truc. Moi, j'ai quand même l'impression que mes films, ils racontent tous la même chose, en vrai.
Ah.
Ils racontent tous l'histoire d'un type qui est un peu dépassé par son époque et qui l'époque lui passe devant. Le monde va plus vite que lui. Enfin, OSS, c'est ça, The Artist, c'est ça, Le Redoutable, c'est ça. Le prince oublié, c'est ça. Je pense qu'il y a donc, mais en fait, les films ils sont différents. Mais au fond, il y a quand même un truc où ce qui m'échappe, parce que c'est pas un truc que j'ai décidé il y a 20 ans ou je sais pas quoi, mais ce qui m'échappe, je crois que c'est aussi intéressant ce à quoi je n'ai absolument pas pensé parce que j'étais focalisé sur autre chose, et peut-être aussi important que ce sur quoi je m'évertue à bosser comme un malade, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire qu'en fait. Ça change, on se réinvente, on tente autre chose, on change de genre, mais finalement, on tourne quand même autour de la même chose.
Oui, il y a des choses, en tous les cas, qui persistent, parce que je crois que enfin, c'est pas toujours les mêmes. Il n'y a pas qu'une partie du cerveau ou une partie de votre personnalité qui travaille, en fait. On est plein là-dedans, et donc, du coup, tout le monde s'y met, quoi, vraiment. Et puis, c'est compliqué de faire un film. Il y a beaucoup de paramètres. Vous avez vraiment en plein milieu d'un film, je peux oublier les codes de chez moi, mes codes de carte bleue, etc. Parce que ça prend beaucoup de place, quoi. Donc.
Mais justement, alors je vous posais une question de novice. Moi, je connais pas bien le cinéma. Mais justement, on se dit, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de monde, tellement de boulot, tellement de camions, tellement de voyages. c'est tellement cher qu'on se dit, mais comment garder l'étoile? Comment savoir ce qu'on veut dire? Comment ne pas se perdre? Et en fait, il y a deux lectures. Soit on se dit, ben, en fait, c'est quasiment impossible, soit on se dit, c'est la seule façon, en fait, d'y arriver.
De se perdre, vous voulez
dire? Non, de pas se perdre, c'est la seule façon de s'en sortir. Il faut avoir quelque chose qui, je sais pas, une obsession, une affaire personnelle, un truc qui revient. Autrement, on s'en sort pas.
Alors, moi, comme ça, je dirais, j'ai l'impression que quand vous travaillez énormément, le plus que vous pouvez, il y a un moment donné où il y a une espèce de note, comme ça, qui se met en place, qui est la note du film. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Et en fait, vous voyez tout de suite tout ce qui est dissonant et ce qui est consonant, en fait.
Donc, ouais.
Et ce qui est dissonant ne rentre pas dans le film, ce qui est consonant rentre. Et en fait, vous devenez un petit peu le videur à l'entrée du film. Et toi, tu rentres pas, toi, tu rentres pas, etc.
Donc, arrive toujours à se souvenir de cette note dans le tumulte d'un tournage.
Mais oui, parce que c'est une note justement. C'est que c'est pas une phrase.
Ouais.
C'est pas un concept. Mais j'ai commencé par ça. Hein. Quand vous avez beaucoup travaillé, à un moment donné, vous pouvez vous appuyer sur votre intuition parce que l'intuition elle est nourrie de tout du travail d'avant, quoi. Donc bon, après c'est comme ça que je procède. Je sais pas pour les autres. Hein.
C'est très joli ce que vous disiez, Michel Aznavissieux, sur cette note comme ça que vous essayez de tenir dans un tournage, la note d'un film. Et effectivement, on écoute Bowie, on se rend compte que oui, Bowie aussi, il se réinvente. Bowie, bah, comme Gainsbourg, il change. Bowie adorait le mime. Gainsbourg faisait plein d'emprunts, presque des détournements, un peu comme vous. Mais en même temps, il y a un truc qui est là, autour duquel Gainsbourg tourne, autour duquel Bowie tourne. Et c'est un peu ce que vous avez appelé la note pour un film, mais même aussi à l'échelle d'une carrière entière, peut-être. Je suis très heureux de vous avoir senti, en fait, un peu obsessionnel, ça me rassure. Mais soyons plus précis sur certains films. Cette note, comment elle est, elle a, je sais pas, elle a une couleur, vous avez parlé d'intuition, je pense à la note bleue de Miles Davis. Mettons par exemple sur le film que vous êtes en train de faire maintenant, encore un détournement sur un film de zombies, je crois, avec Romain Duris. Ouais. Je crois que vous êtes en plein montage, et vous êtes sorti de la salle de montage pour nous rejoindre sous le soleil de Platon. Là, la note, vous la qualifieriez comment ?
Eh bien, c'est ce que j'essayais de vous dire. C'est très compliqué de mettre des noms dessus. Elle est, mais là, la note, elle est drôle, elle est rapide, elle est pop, elle est maline. Ça va, je me suis assez envoyé de fleurs.
Non, non, mais...
cool. Mais non, voilà, le film que je vise, hein, je dis pas qu'il sera ça, mais le film que je vise, c'est ça. C'est une note qui est colorée. Et rapide.
Ouais. Et alors, si on parle de The Artist, comme on est très nombreux à l'avoir vu, parlez-nous de la note qui vous a guidé, qui vous a permis d'unifier comme ça cette diversité. J'aurais envie aussi de dire que c'est une question, c'est ça le jugement. Vous savez, le jugement, c'est de repérer dans la diversité de l'unité. En fait, de s'y retrouver dans le bordel, quoi. Et cette note dit très bien ce que c'est que le jugement intuitif, en fait. Alors, comme on est nombreux à l'avoir vu, The Artist, racontez-nous, quelle a été la note qui vous a comme ça tenu, accompagné dans ce film muet ?
Ben, c'est une note qui ressemblait à un bonbon, en fait. Donc voilà, l'idée c'était de faire un bonbon.
Ouais.
Et donc de pas avoir peur d'aller vers des choses qui flirtaient avec la poésie, en même temps essayer de garder une espèce de distance, avec de pas être prisonnier non plus de cette apparente poésie, parce que le muet noir et blanc amène ça très vite.
Oui.
Mais oui, il y avait c'était une note un peu émerveillée, quoi, comme ça, merveilleuse.
Ouais. Et la note du prince oublié avec Omar Sy.
C'est marrant avec Omar Sy. La note avec Omar Sy, elle était merveilleuse, fantastique. C'était ça l'idée, ouais. Elle était par là.
C'est très joli cette idée de note comme ça, de savoir l'écouter, savoir la tenir aussi, savoir ne pas la perdre dans l'agitation d'un tournage. Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience esthétique récente qui vous a troublé, quoi ? Soit en littérature, soit en cinéma, soit en musique.
En littérature, là, il y a plusieurs trucs dernièrement qui m'ont beaucoup plu. L'année dernière, Lonesome Dove, j'ai pris une bonne, c'est une espèce de grande saga en quatre livres, une saga western, ça j'ai absolument adoré, c'est un chef-d'œuvre. Et là, j'ai lu, Sholem Alreim, Les Étoiles Vagabondes, c'est un très très beau roman, et Isaac Bashevis-Singer, des romans qui se passent à New York pendant la guerre, qui sont que je ne connaissais pas. Ouais. Enfin, je connaissais les contes de Singer, mais cette littérature qui a été écrite en yiddish et qui raconte des réfugiés de la Seconde Guerre, enfin d'Europe, pardon, pendant la Seconde Guerre mondiale à New York et qui sont perdus et qui sont autant perdus par leur culpabilité d'être à New York et de pas être en Europe et en même temps de la culpabilité parce qu'ils trompent leur femme, etc., etc.
Ouais.
J'ai trouvé ça très beau.
Et ça nourrit peut-être, le projet que vous avez d'adapter en dessin animé La plus précieuse des marchandises, l'histoire d'un couple de bûcherons recueillant un enfant juif en pleine Seconde Guerre mondiale. En tout cas, on est dans le premier degré, là.
On est, oui, la période est la même, etc., mais la tonalité est extrêmement différente. Ouais.
Voilà, la tonalité, la note. Merci, Michel Aznavissieux, de ce voyage que vous nous avez invité à faire de votre univers. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre. Alors, j'ai été surpris parce que j'ai découvert. On a senti affleurer comme ça sous l'ivresse de la répétition, sous la liberté du détournement, la liberté du malice, la liberté de l'ironie, quelque chose quand même qui revient et que vous essayez de tenir, d'entendre et de respecter au niveau de l'ensemble de votre carrière, comme au niveau de chaque film, avec cette jolie idée d'une note comme ça. Je me pose une question en vous écoutant, c'est est-ce que tout a commencé avec le détournement et que finalement vous avez respecté, vous avez été fidèle à ce détournement de film en film parce que ça vous ressemble, auquel cas le détournement est votre vérité, une lecture un peu freudienne, ou alors juste ça s'est fait comme ça, c'était à Canal, et dans ce cas-là le détournement n'est pas un fondement, il n'est qu'une origine. Eh bien je vais faire comme vous, je vais laisser la question suspendue, je ne vais pas répondre, et merci beaucoup, on est impatients de voir comment cette réinvention va encore donner des films nouveaux. On a aussi senti la beauté, je dirais, d'un artisan, quelqu'un qui aime faire plus que regarder finalement le résultat, quelqu'un qui aime avoir les mains dans le cambouis, et heureusement les oreilles grandes ouvertes pour que finalement quelque chose soit respecté. On a aussi entendu une philosophie de l'intuition, hein. Finalement se faire confiance, s'écouter, une philosophie aussi de l'attention. J'ai beaucoup adoré le malice dans vos yeux quand vous dites ce mot. Voilà l'attention qu'il faut pour voir sur les lèvres des acteurs dans la classe américaine quelque chose qui va donner autre chose. L'attention aussi qu'il faut pour choper le moment où c'est drôle, le timing exact du comique, parce que juste avant c'est pas drôle, juste après c'est pas drôle, mais maintenant c'est drôle. Et puis enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette idée du second degré qui n'a de sens que parce qu'il y a un premier degré, c'est-à-dire au fond, une manière de retrouver, par des voies détournées, hommage à toute votre carrière, l'émotion. Michel Hazanavicius, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sous le soleil de Platon. Cette émission a été réalisé par François Audouin. Merci François, avec à la technique Guillaume Roux, à la programmation musicale Valentine Chedebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h exactement sous le soleil de Platon. À suivre après le Flash Info, rendez-vous Place du Marché avec Aurélie Sfeys. Bonjour Aurélie.
Bonjour Charles, aujourd'hui on est au marché de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, et plus particulièrement au milieu des gratte-ciels, véritable village vertical dans la ville, et on va faire connaissance avec les gratte-cielleux. C'est ainsi qu'on les appelle, ce sont les habitants de cette cité vertigineuse.
Ça fait rêver, merci Aurélie.